Interview.
Okay, då börjar vi.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwan et c'est l'heure de l'interview, toujours pour cette semaine des rencontres de l'écologie, avec face de, à moi, monsieur Yves Michel, bonjour.
Bonjour à toutes et à tous.
Yves Michel, vous êtes éditeur et vous êtes ici pour nous parler donc de ces éditions Yves Michel et des éditions Le Souffle d'Or. Alors, vous êtes présent dans la librairie actuellement sur ce stand à l'écologie au quotidien. Pour vous, on peut peut-être résumer un peu votre ligne éditoriale de votre maison d'édition.
Oui,
de
alors l'idée, c'est de rendre les gens autonomes et souverains sur leur vie, de façon à choisir consciemment la vie qu'ils ont envie de mener. En les rendant les plus autonomes possibles par rapport, d'une part, à tous nos conditionnements nombreux et variés, par rapport à la société qui fait pression sur nous tout le temps, par rapport au temps qui passe, par rapport à plein de choses, de façon à trouver qui on est au fond de nous et de l'exprimer socialement.
Alors, j'ai face à moi une jaquette qui propose certains ouvrages.
Un dépliant, oui.
Et qui sont sous certaines catégories. Je vais les énumérer. Prenez soin de vous. Développement personnel. Il y a « Et si on jouait ?» Coffrets et oracles. En toute intimité et vivant ensemble. Donc, pour vous, qu'est-ce que représentent ces propositions? Et vous l'avez dit, c'est pour peut-être accéder à une certaine autonomie de bien-être. Qu'est-ce qui vous a incité à éditer ces ouvrages-là?
Alors, ce qui m'a incité à créer Le Souffle d'Or en 1983, ça fait 42 ans, c'est pour partager des choses que j'avais rencontrées de façon large avec beaucoup de public pour faire, pour nourrir un changement de société. Parce que dès tout jeune, moi, j'étais très insatisfait de la société dans laquelle je vivais, qui est très injuste, qui est très exploitante, etc. Et j'ai trouvé que le médium de l'édition était assez efficace pour partager largement des idées. Et j'ai fait connaître en France pas mal d'approches, que ce soit de santé, d'éducation et des questions de société, comme l'éco-psychologie, par exemple, Joanna Macy, je l'ai publié en 2008. Et voilà. Et puis, pour moi, comme disait Gandhi, le travail commence par soi-même. Donc, commençons déjà par faire un travail de développement personnel, d'éducation. Et puis ensuite, partageons ce qu'on a trouvé, ce qu'on a développé socialement, prenons notre place dans la société de façon à faire rayonner nos valeurs. Et par exemple, moi j'ai été maire de ma commune pendant quelques années et je trouve que c'est un juste prolongement, une fois qu'on a fait un travail sur soi, c'est de s'investir dans le social.
Alors, les éditions Le Souffle d'Or est basée à Gap.
Oui.
Ce catalogue, enfin du moins ce dépliant, n'est pas exhaustif.
Non, bien sûr, c'est un petit aperçu, c'est des nouveautés.
D'ailleurs, vous avez un catalogue de combien d'ouvrages?
On a à peu près 350 titres. Ouais. Et certains sont à la librairie Mosaïque, à Die, bien entendu.
Prenez soin de vous, ça c'est la première des choses, peut-être oui. Pour être au diapason avec soi-même et avec les autres.
Et avec la nature aussi, c'est important, et avec son corps, parce que le corps c'est le grand oublié de notre société. Et j'ai beaucoup d'ouvrages qui aident à refaire ami avec notre corps, qui nous envoie des messages sans cesse, qui nous soutient, qui nous apporte tellement de richesses, et qu'on néglige dans notre société. Tout est concentré sur la tête, sur le mental, et la tête, elle va exploser.
Pour vous, il est primordial de faire découvrir tous ces auteurs ou ces chercheurs en même temps?
Oui.
Comment vous êtes... vous en êtes venu à aller au-devant de ces personnes? Est-ce que, comment s'est établie cette maison d'édition au départ?
C'est des rencontres. Au départ, il y a eu Findhorn, qui a été une grande source d'inspiration pour moi. Findhorn, c'est une communauté spirituelle et écologique en Écosse. Et là, j'ai trouvé une source d'inspiration très forte. Et puis après, c'est des rencontres. Pour moi, je fonctionne beaucoup par coup de cœur. C'est-à-dire, je rencontre une autrice ou un auteur qui a des choses à dire, qui les dit bien, avec lesquels je crée une relation, et alors j'ai envie d'être leur porte-parole. Je suis un peu comme une sage-femme en fait, en tant qu'éditeur. Je leur donne la parole dans la société à travers leurs livres, et voilà, j'aime bien ce rôle.
Est-ce que vous avez aussi peut-être un avis à donner aux écrivains ou aux personnes qui écrivent,
oui,
avant de pouvoir les éditer?
Tout à fait, on fait un aller-retour ou plusieurs allers-retours avec les auteurs, je leur fais quelques remarques, je respecte bien sûr leur travail et leur fond, mais je leur fais quelques remarques des fois sur la forme ou comme ça, de façon à donner toutes les chances possibles à leur livre en me basant sur mon expérience.
Il y a beaucoup d'ouvrages, on va parler de ceux-là, qui sont de cette nouvelle, des nouvelles publications de Mémoire de fœtus. Alors, c'est avec de Aimé Gobert, avec une préface du professeur Jean-Pierre Relier. Donc, vous avez un contact multiple aussi avec des milieux scientifiques.
Oui, tout à
avérés.
Fait. On a des professeurs d'université, on a des médecins, puis on a des chercheurs de tout genre, y compris qui n'ont pas de diplôme, mais qui sont pour moi novateurs. Et souvent, la science progresse par des gens qui ne sont pas forcément de l'université, hein, mais qui sont des chercheurs. Et là, par exemple, c'est une recherche autour de l'importance de la vie fœtale pour notre vie ensuite, enfant et adulte, et comment les émotions que vivent les parents, notamment la mère, influent sur le fœtus qui intègre ses émotions et ensuite qui les déroule dans sa vie aérienne après la naissance, quoi. Et c'est vraiment un aspect très important pour moi, les conditions autour de la naissance, mais même pendant déjà la grossesse, parce que ça façonne beaucoup notre culture, en fait. J'ai publié un livre traduit de l'allemand qui s'appelle « Initiation à la psychologie périnatale » et qui explique combien les circonstances de notre naissance influent non seulement dans notre vie personnelle, ça on commence à savoir, mais même notre vie de société. C'est fascinant.
Il y a ensuite le syndrome du jumeau perdu. Alors là, j'apprends qu'un embryon sur 10 environ a un jumeau qui disparaît durant la grossesse.
Ouais.
Ça, c'est une chose que j'apprends.
Oui, et c'est de plus en plus connu et étudié. Et là aussi, ça a un impact sur la vie adulte. Il y a des symptômes répertoriés qui font ça. Et donc, ça incite à faire un travail sur soi pour faire le deuil de ce jumeau.
D'ailleurs, comment est traité au niveau de la médecine aujourd'hui? Est-ce que ça s'est abordé dans cet ouvrage?
Alors la médecine le connaît, hein, puisque le chiffre de 1 sur 10 provient des milieux médicaux, mais par contre ils ne savent pas le traiter. Il faut que ça soit traité en psychologie, en développement personnel, en thérapie, c'est autre chose.
Et puis ensuite un ouvrage sur l'importance des dents, nos dents. Une porte vers la santé, ça c'est de Michel Manteau.
Ouais, donc, c'est fascinant comment le corps a plein de portes d'entrée, hein, que ce soit les pieds, les dents, les cheveux, etc. Et là, les dents, c'est un dentiste, qui est même professeur de dentisterie, qui a mis au point avec un collègue une gouttière en caoutchouc, pas en plastique, hein, en caoutchouc, qui est invitée à mastiquer, notamment pour les enfants. Et ça crée un réflexe dans le squelette et le corps qui fait que les dents se remettent en place et ça évite notamment aux adolescents de porter ces barbelés là devant les dents, vous savez, et ça demande de l'assiduité, mais c'est remarquable l'impact que ça a. Et d'ailleurs l'auteur est à Dieulfi, il n'est pas très loin d'ici dans la Drôme.
Voilà, Michel Monteau. Il y a aussi l'aspect développement personnel. On ne va pas énumérer tous les ouvrages.
Non, mais la musique intuitive, par exemple, c'est un livre qui vient de sortir, qui consiste à découvrir la musique sans connaître le solfège, avec des instruments du monde entier qui sont assez simples à jouer, et de trouver sa propre inspiration musicale. Ou alors prendre soin des autres sans s'épuiser, ou prendre soin de mes parents qui vieillissent. Ça, c'est aussi une alerte, parce que quelquefois les gens s'épuisent dans ce rôle-là.
Il y a de tous les aspects du développement personnel, là on en présente quelques-uns, mais pour vous, à partir de quel moment le développement personnel s'initie ?
Oh ben, ça consiste à s'interroger sur soi, à avoir de l'attention sur soi.
Il faut être adulte déjà ou alors
Non, ça peut commencer dès l'enfance. Hein. C'est une connaissance de soi, notamment des émotions. Par exemple, j'ai publié un livre sur l'éducation émotionnelle. C'est vrai qu'à l'école, on ne nous apprend pas du tout ce que c'est que les émotions. Et en fait, c'est dans la cour de récré, c'est la jungle hein, et c'est quelquefois violent. Donc là, on apprend aux enfants à identifier et à apprivoiser la colère, la tristesse, la jalousie, etc. Donc ça commence assez jeune et toute la vie.
Et puis il y a les coffrets et oracles. Il y a notamment celui de Féminitude hein, de Monique Grande.
Donc Monique Grande,
vous
ouais.
traitez un peu de tous les aspects de société ouais. avec parfois des difficultés, des incompréhensions. Ouais. Pour vous, l'importance de vos éditions permettent de répondre aussi aux questions, aux incertitudes.
Et de beaucoup mieux se connaître. Par exemple, Féminitude, c'est les archétypes féminins. Donc par exemple, beaucoup de groupes de femmes ou de femmes toutes seules d'ailleurs se servent de ces cartes pour trouver une inspiration pour la journée ou pour une thématique particulière. Donc c'est une incitation à un voyage intérieur, à une méditation, à une guidance pour mieux se connaître.
Le hasard, pour vous, est un facteur aussi de développement ?
Oui, disons que Einstein disait que le hasard, c'est Dieu quand il voyage incognito. Je crois beaucoup au phénomène de résonance, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans un endroit donné, on rencontre des personnes particulières et pas d'autres. Et ça, pour moi, c'est amené par les phénomènes de résonance entre les personnes et puis aussi par notre arbre psychogénéalogique qui nous détermine énormément.
Et il y a, je reviens aussi sur la sophrologie. Donc vous présentez aussi au travers de ces ouvrages toutes les propositions qu'on peut trouver autour de la médecine parallèle.
Oui,
si on
oui.
peut parler de médecine plutôt, de soins.
D'une approche douce de soi.
Oui. Ouais, ouais. Et il y a un public chez vous qui permet justement de maintenir cette maison d'édition ?
Alors, c'est difficile actuellement parce que moi, je suis un pionnier, c'est-à-dire j'ai démarré tout ça dans les années 80 et désormais, les majors de l'édition ont vu qu'il y avait un créneau commercial et alors ils viennent là-dessus avec leurs gros moyens, leur gros marketing, leur publicité, etc. Et c'est sûr que c'est un peu difficile pour nous actuellement parce qu'on les voit moissonner les terres qu'on a semées quoi, en quelque sorte. Et puis, il faut dire que l'édition aujourd'hui est devenue très industrielle et financière. Alors que moi, je me considère comme un artisan éditeur. Je choisis les livres par coup de cœur, j'essaie de les vendre ensuite. J'ai une petite équipe que je mène humainement et la finance passe après. Alors du coup, effectivement, je suis un peu en difficulté en ce moment. Mais je vois quand même la stratification comme dans beaucoup de domaines, hein, comme dans l'agriculture. Il y a l'agriculture industrielle et puis il y a l'agriculture paysanne. Et ben moi, je suis un artisan éditeur et je le revendique. Et je trouve que c'est de la folie que de s'embarquer à fond vers le monde industriel parce que ça n'amène qu'à des catastrophes, quoi, que de l'exploitation, que de la pollution et de la misère humaine.
Les éditions que vous effectuez pour ces ouvrages sont de quel ordre au niveau des exemplaires ?
Ben, on imprime en général à peu près un peu plus de 1000 exemplaires la plupart et puis après les ventes sont très diverses, des fois on n'atteint même pas 1000 exemplaires et quelquefois plusieurs milliers Et on a la chance d'avoir des livres de fond qui se vendent depuis des années et des années. Et c'est ça qui nous maintient hors de l'eau.
Donc vous rééditez certains ouvrages.
Ah oui, on les réimprime.
Avec des éditions modifiées parfois.
On les réimprime, oui, quelquefois on fait des nouvelles éditions, oui. Quelquefois on ne change pas grand-chose, mais le public et les libraires aiment qu'il y ait juste un petit peu de nouveau, et alors ça redonne un coup de fouet au livre, donc on le fait parfois, oui.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du DIWA.
107.5
101.7
FM.
Là, c'est la page Vivons Ensemble. On pourrait dire que ça fait écho aussi avec Coopérer pour un territoire vivant,
tout
qui est
fait.
Le titre de ces rencontres de cette année.
Ouais.
Alors, pour vous, il y a aussi un grand choix d'ouvrages sur votre maison.
Oui, alors il y en a moins parce que c'est plus récent. Hein. Les éditions Yves Michel, je les ai créées en 1999. L'idée, c'est de proposer des visions de la société, des visions de l'avenir, des approches sociétales nouvelles qui permettent de faire sens et de faire société, parce que aujourd'hui le lien social il est gravement menacé. Il y a déjà longtemps certains disaient qu'il était déchiré par nos gouvernants qui ont tendance à nous pousser à être chacun chez soi derrière sa télé ou devant sa télé, et alors que on a besoin de liens sociaux, c'est très important, on se construit dans les relations aux autres. Et donc là, j'ai des livres sur l'intelligence collective, j'ai même un livre d'éco-fiction sur une communauté qui se crée quelque part, d'ailleurs qui est en train de se créer en vrai par les auteurs aussi. Et puis des propositions de vie ensemble, de nouvelles sociétés, parce qu'on est dans un monde très bouleversé, très chaotique, et ça peut donner la place aussi à des nouvelles pousses. Et donc ça, c'est des nouvelles pousses qui émergent dans notre société, de même que j'avais piloté dans les années 2000 l'enquête sur les créatifs culturels, l'enquête sociologique. Et c'est des repères, c'est des façons de montrer aux gens qu'ils ne sont pas isolés, qu'ils ne sont pas fous, qu'au contraire, s'ils portent des valeurs écologiques et de liens, et ben c'est sain. Et donc, ils peuvent avoir confiance en eux et puis rencontrer les autres, comme ces rencontres écologiques a dit, que j'adore. J'y viens chaque année et je trouve que c'est une très belle initiative, et qui est en plus gérée d'une façon très associative, avec beaucoup de bénévolat et des intervenants vraiment de haut niveau, des films, des ateliers. Ça, c'est très bien, on en a vraiment besoin pour fraterniser et pour se rendre compte qu'on est nombreux à porter ces nouvelles valeurs.
Alors, tous ces ouvrages, une fois lus, commentés, argumentés, modifiés parfois, ou comment se passent ces éditions? Vous avez une maison d'imprimerie proche, ou alors comment se déroule l'impression de ces ouvrages?
Alors l'imprimerie, autrefois j'avais une imprimerie qui était à 500 mètres de mon entrepôt à Gap, et puis elle a été rachetée, puis elle a fait faillite, et désormais c'est un Leclerc Drive à la place. Alors franchement, j'ai les boules. Et je fais appel à plusieurs imprimeurs selon leur capacité, selon leur prix aussi. Mais j'ai un engagement écologique de faire au moins 80% de tous mes livres dans un rayon de 600 km. Donc la plupart en France, et aussi sur du papier recyclé. Je donne une fin de vie honorable aux livres. Et puis on est un certain nombre d'éditeurs à partager nos bonnes ficelles, nos bonnes pistes concernant l'aspect écologique des livres auxquels on est attentif.
Donc vous veillez aussi à opérer dans une idée de circuit court?
Oui, tout à fait. Ouais. Ben, on a un diffuseur quand même en France, parce que c'est incontournable, mais qui sert tous les libraires. Mais on fait aussi de la vente directe sur notre site internet.
Et d'ailleurs, depuis vos débuts, hein, de 1983, vous avez senti venir les difficultés de l'édition?
Alors, nous, au Souffle d'Or, on a eu différentes phases. On a eu des creux de vagues et des hautes vagues. Et on a traversé toutes les crises qu'on a traversées. Voilà, on est toujours vivant aujourd'hui, bien que ça soit très difficile. J'ai vu petit à petit arriver une industrialisation et une financiarisation de l'édition. En effet, comme je disais tout à l'heure, et ça, tant qu'on sera dans ce système capitaliste, ce sera difficile d'y échapper. Mais si vous écoutez un peu les nouvelles dans l'édition, c'est des rachats sans cesse, des fusions, ça se bouffe l'un l'autre, etc. Et puis c'est surtout des objectifs financiers et politiques, parce qu'il y a de gros liens entre les majors de l'édition et le monde politique. Et ça, c'est regrettable, quoi. Ça biaise énormément les choses. Et aujourd'hui, le danger est que si le public continue d'acheter sur Amazon et dans les grandes centrales et uniquement aux grands éditeurs, eh ben, ça va provoquer un appauvrissement de la diversité culturelle, parce que qui est-ce qui donne sa chance aux primo-auteurs, à des idées nouvelles, etc. C'est nous, les éditeurs indépendants, avec les libraires indépendants. D'ailleurs, on a créé une fédération d'éditeurs indépendants qui regroupe plus de 400 éditeurs déjà en France, et on va tenir les assises prochainement le 22 février à Bordeaux, et c'est aussi une très belle initiative.
Il y a cette augmentation d'éditeurs, mais d'auteurs également.
Oui,
parce que aujourd'hui, vous avez parfois à contre-cœur des refus à formuler.
Ah oui. Aujourd'hui, énormément de gens écrivent et je reçois plusieurs manuscrits chaque jour. Alors vous vous doutez bien que j'ai pas le temps de les lire tous. Donc je demande un synopsis en premier temps pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Mais effectivement, je suis amené à refuser 99% des manuscrits que je reçois, puisque j'en publie une trentaine par an et j'en reçois, je vous dis, plusieurs par jour.
Quels sont vos critères justement pour mettre la focale sur un ouvrage ?
Alors déjà, que ce soit une expérience propre à l'auteur et pas une ressucée. Que ça soit présenté de façon ouverte à de la discussion, à du dialogue, à du débat. Que ça soit donc étayé autant que possible, que ça soit aussi bien écrit et que l'auteur soit ouvert à une bonne synergie avec nous, l'éditeur, de façon à aider à la promotion des livres. Et puis voilà, je suis curieux, moi, donc je découvre des choses comme le livre sur les dents, là, c'est tout à fait original. Et j'ai découvert plein d'auteurs ou de méthodes originales. Et j'aime ça.
Et puis il y a aussi cet aspect de l'intimité que vous proposez également avec des ouvrages qui ont lié certainement avec la sexualité, je pense.
Oui, le tantra, par exemple, oui. La connaissance de soi intime, en effet, ça fait partie de l'évolution de la société. Pour moi, on est dans une société qui est assez puritaine, qui est assez répressive. Et d'ailleurs, c'est ça qui crée, d'une part, la violence, d'autre part, la pornographie. On ferait mieux d'être plus cool, plus ouvert, plus facilement dans la tendresse. Ça créerait beaucoup moins de tensions sociales et de violence. Donc c'est une éducation, ça aussi, aux relations.
D'ailleurs, il y a ce débat actuellement sur l'éducation sexuelle dans les établissements scolaires. Ouais. Madame Borne présentait justement le programme aujourd'hui.
Je suis, moi, très réservé par rapport... Je ne connais pas le programme de Madame Borne, mais en tout cas, le programme précédent, ça me semblait totalement déplacé d'initier à la sexualité des enfants de 5-6 ans, de leur montrer comment ça se passe, etc. Ça me semble complètement même dangereux pour l'équilibre des enfants. Il faut attendre l'adolescence ou la puberté pour parler de ça aux enfants. Aujourd'hui, c'est de la folie, quoi.
L'éducation sexuelle, nous sommes de cette génération où nous avons été initiés à l'éducation sexuelle au secondaire.
Voilà. Adolescent. adolescents, et c'est une bonne chose en effet, et il ne faut pas que ça se limite à l'anatomie, hein. Il faut vraiment beaucoup insister sur la psychologie, sur le respect, le consentement, des aspects comme ça qui sont bien plus importants que l'anatomie. Autrefois, nous, c'était plutôt l'anatomie, mais adolescents. Mais avant, non, il faut laisser les enfants dans leur monde et pas les parasiter avec ces notions qui flirtent quelquefois quasiment avec la pédophilie, hein, il faut le dire.
Alors, ce catalogue s'adresse à tous les âges aussi. Donc, oui. Il y a adultes, adolescents, enfants également.
Pour les enfants, je n'ai pas énormément de livres directement pour eux, parce qu'on ne peut pas publier dans tous les domaines. Mais j'ai beaucoup de livres sur l'éducation, donc qui s'adressent aux parents pour partager avec les enfants.
Les ouvrages s'adressent à toutes les catégories sociales. Est-ce que, par exemple, vous avez des lecteurs issus des milieux de recherche ou scientifiques?
Oui, à la fois d'un côté, donc j'ai des profs d'université, et puis de l'autre côté, des gens très populaires. Je me souviens d'un chauffeur routier qui était enthousiaste sur certains livres et musiques que je diffusais à l'époque. C'est toutes les personnes qui sont en chemin, en fait, qui se posent des questions à la fois sur eux et sur la société, ils trouveront de la nourriture avec mes éditions.
Il y a cet aspect aussi, vous éditez les ouvrages en papier, mais également en e-book. Donc pour vous, c'est irrémédiable aussi cet aspect d'édition numérique?
Non, c'est pas du tout irrémédiable. En France, ça plafonne autour de 3%. Et c'est la même chose chez nous. Ça touche quelques personnes, notamment les gens qui voyagent et peut-être plus les jeunes. Mais on fait le constat que depuis plusieurs années, ça plafonne autour de 3%. Et en France, je pense que ça n'ira guère plus loin. À la différence, par exemple, des États-Unis, où ils sont allés jusqu'à 50%. Et maintenant, ils sont en reflux.
Et puis, c'est moins magique.
Ah, le papier, le contact... sensuel du papier, même autrefois il y avait les odeurs des encres, aujourd'hui beaucoup moins, mais quand même la texture du papier, et puis un livre en papier, on s'arrête, on réfléchit, on revient dessus, on peut la noter, ça a beaucoup d'avantages. Alors après, c'est sûr qu'il y a l'impact écologique. Ceci dit, l'impact écologique du numérique est très important aussi à cause des data centers et autres. Donc, quasiment, ça se vaut. Hein.
En même temps, ce sont des ouvrages qui sont achetables. On les trouve, moyennant finance.
On les trouve donc facilement dans toutes les librairies, sur toutes les plateformes de vente et sur notre site internet souffledor.fr ou yvesmichel.org.
Voilà, vous venez de citer les sites internet. Je mettrai les liens sur la page de l'émission.
Ah ouais, hein, c'est sympa.
Mon podcast.
Merci.
Et bien, je vous remercie, Yves-Michel, de nous avoir donné un peu de votre temps pour nous présenter vos maisons d'édition, donc Le Souffle d'Or. Et yvesmichel.org.
Et moi, je vous remercie d'être mon porte-parole à l'occasion et de faire la même chose que je fais avec mes auteurs. On a besoin de partager, et notamment en audio. C'est une façon de recevoir par l'écoute qui est très, très riche et qui correspond à une partie de la population. Il y a des gens qui sont plus visuels, d'autres plus auditifs, d'autres plus kinesthésiques, et il en faut pour tout le monde.
Pour vous, cela semble important, en tout cas, d'avoir des maisons d'édition qui soient vraiment en dehors de ces grands groupes industriels,
ah oui, indépendants,
qui écrasent les divergences les différences.
Oui, et qui normalisent terriblement. Alors que nous, on donne la parole à des primo-auteurs et on offre des perspectives diverses et variées. Et ça, c'est vraiment très important.
Il vous arrive d'ailleurs d'éditer des ouvrages pour lequel vous n'avez pas forcément les mêmes accords?
Ah oui, bien sûr. Oui, je ne suis pas d'accord avec 100% du contenu des 100% de mes livres. Mais j'aime bien ça, j'aime bien la diversité. Et j'aime bien faire se rencontrer mes auteurs qui sont de bords différents. Pendant un temps, aux éditions Yves-Michel, j'ai certains auteurs carrément du Parti communiste. Et puis d'autres qui sont proches de Dupont-Aignan, par exemple. Et puis d'autres qui sont des chercheurs scientifiques, etc. Et j'aime bien que ces gens se rencontrent et échangent. Parce que qu'on a besoin de débats dans notre société et de débats sereins et étayés et pas juste des invectives comme on voit à la télé qui est lamentable. Et aujourd'hui, plus... Il n'y a plus grand monde qui change d'avis suite à un pseudo-débat parce que c'est juste une bagarre, quoi. Alors qu'on a besoin de débats pour évoluer, pour apprendre des choses, pour changer d'avis éventuellement. C'est très important.
Eh bien, merci beaucoup Yves-Michel. Je vous souhaite une bonne soirée.
Merci à vous et bonne soirée aussi.
Au revoir.